Le débat africain, Namouri Dosso.
Des militaires qui prennent le pouvoir par la force au Mali, en Guinée, au Burkina Faso ou encore au Niger. Les forces armées congolaises qui ne parviennent pas à prendre le dessus sur les rebelles du M23 dans l'est de la RDC malgré leur supériorité numérique. Des généraux rivaux qui plongent le Soudan dans une guerre qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts depuis avril 2023. Certains militaires africains auraient-ils perdu le sens de la mission qui leur a été confiée, celle qui consiste à défendre le territoire national et leurs concitoyens. Bienvenue dans ce nouveau débat africain. Cette semaine, nous allons aborder un sujet au cœur des interrogations sur le continent. Nos militaires sont-ils aptes à faire face aux différentes menaces qui planent et qui frappent nos pays africains? Pourquoi les capitaines, colonels et généraux qui avaient promis de restaurer la sécurité face aux djihadistes et autres terroristes semblent être en échec? Faut-il revoir la formation et donc le professionnalisme au sein de certaines troupes en Afrique? Quelles sont les armées qui bénéficient d'une bonne réputation et pourquoi? Ces sujets, on en parle aujourd'hui avec nos trois invités, tous trois à Dakar, au Sénégal. Nous sommes en ligne avec Hassan Kone, ancien colonel de la gendarmerie nationale mauritanienne et chercheur senior au sein de l'Institut d'études de sécurité. Également avec nous le docteur Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et directeur régional du Timbuktu Institute. Enfin, Barkaba, journaliste et analyste politique sénégalais, nous accompagne pour nous livrer son éclairage sur les différentes questions qui concernent nos armées africaines. Depuis les indépendances, les armées en Afrique, dont certaines ont été créées de toutes pièces, ont connu des fortunes diverses. Hassan Kone, diriez-vous que l'Afrique dispose aujourd'hui d'armées opérationnelles, professionnelles et efficaces ?
Je ne dirais pas que l'Afrique aujourd'hui dispose d'armées professionnelles, équipées de grandes armées. Il faut partir du principe que les modèles dont disposent les pays africains sont des modèles qui ont été construits sur la base de ce qu'a laissé le colonisateur. Ce sont des armées qui, globalement, connaissent des déficits qui sont liés d'abord au sous-équipement, qui sont aussi liés au manque de formation et surtout au manque d'entraînement. Parce qu'après la formation, il faut continuer à entretenir les hommes et surtout à les entraîner. Et ça manque beaucoup dans les armées africaines. Cependant, il faut reconnaître que la plupart d'entre elles se sont ces dernières années plus ou moins modernisées et elles se sont surtout adaptées pour pouvoir faire face aux différentes formes de menaces sécuritaires, même si ces dernières demeurent croissantes.
Barkaba, comment expliquez-vous que 60 ans après les indépendances, certaines armées en Afrique soient jugées inefficaces? Est-ce que vous partagez ce point de vue?
À mon avis, le tableau est très contrasté. Cela dépend de quel territoire géographique on se situe en Afrique où recouvre bien des réalités. Si on peut faire une comparaison, par exemple, on ne peut pas mettre sur le même plan une armée aussi puissante que l'armée égyptienne ou l'armée sud-africaine qu'avec l'armée sierra-léonaise ou, disons, l'armée du Libéria. Ce qui veut dire que l'Afrique recouvre différentes réalités et on peut dire que les armées ont des fortunes diverses selon la trajectoire des États et des pays. Et pour ce qui concerne nous, la région que nous connaissons le mieux, l'Afrique subsaharienne, effectivement, actuellement, on assiste à une sorte de retour du refoulé avec une récurrence des coups d'État qu'on avait déjà connus dans les années 60, juste après les indépendances. Il y avait eu une brève accalmie avant les mutineries ou les soubresauts des guerres civiles du Libéria et de la Sierra Leone qui avait aussi enclenché un nouveau cycle de déstabilisation, de mutinerie, qui avait un peu métastasé. Le cycle s'était un peu interrompu et là, dernièrement, avec les derniers développements qu'a connu le Sahel, avec la pression djihadiste, on a eu comme conséquence des retours de Pretoria. Selon des cycles plus ou moins longs ou courts, on peut assister effectivement à une déstabilisation de certains pays, les armées qui sont censées faire leur devoir régalien.
Alors, Barkaba, vous avez évoqué le retour du prétorien. Sur quoi repose ce retour?
Il y a énormément de facteurs. Il serait très fastidieux peut-être de lister toutes les causes qui ont pu conduire à ces coups d'État. Mais la conséquence immédiate pour la plupart des pays que vous avez évoqués, en tout cas pour trois pays sahéliens, une des conséquences a été la gestion parfois difficile de la crise djihadiste, sans compter d'autres réalités locales liées aux questions de bonne gouvernance, liées à la pression migratoire, autant de facteurs qui ont constitué un terreau fertile et qui ont peut-être même servi de prétexte à certaines des forces les mieux organisées qui se trouvent être au sein de l'armée. Et même dans ces armées-là, on a vu que ce sont les corps d'élite qui ont été le plus souvent à l'origine du déclenchement de ces coups d'État.
Alors, Bakary Samb, certaines voix critiques estiment que le militaire africain est incompétent. N'est-ce pas une conclusion quelque peu abusive ?
Oui, je crois que c'est une conclusion abusive de dire que les militaires africains, de manière générale, sont incompétents, comme l'a dit Barka tout à l'heure. Il faut savoir de quel pays on parle. Il y a des armées très structurées, il y a des armées qui ont des difficultés. Et ces armées-là ont été quand même prises au dépourvu par rapport à leur mission originelle. Vous savez que même les armées occidentales les plus formées n'ont pas pu tenir tête face au combat contre ce qu'on appelle les menaces asymétriques, comme le terrorisme. Ils n'ont pas été préparés à cela. Les armées classiques ne peuvent pas répondre à la menace terroriste de manière efficace. On l'a vu avec l'armée américaine en Afghanistan, on l'a vu avec l'armée française au Sahel, et on continue de le voir ailleurs.
Alors, dans ce cas, que valent nos armées africaines en 2024 ?
Les armées africaines ont leurs faiblesses, mais aussi elles ont leurs forces, ça dépend du pays. En tout cas, il y a une perception positive, quelquefois, des efforts que fournissent certaines armées. Je vais peut-être vous surprendre, mais au Mali, dont on parle très souvent, la dernière enquête qui a été menée montre que les gens de Tombouctou à 92% et à Gao à 91%, je ne parle pas de Bamako, pensent que le niveau d'insécurité a diminué et qu'il y a une forme de satisfaction par rapport au travail que mènent leurs armées. Donc je pense qu'il faut...
Mais à quoi est due cette perception ? Parce que sur RFI notamment, on parle souvent des exactions commises par certains membres de l'armée au Mali avec leurs supplétifs de Wagner.
Ça dépend de la divergence dans la lecture de l'actualité. Et je dis souvent que dans le conflit sahélien, il y a un conflit de perception du conflit entre les conceptions internationales et les perceptions locales. Et là, les perceptions locales dans des pays comme le Mali, c'est qu'il faut se mettre derrière une armée qui est en train de libérer le pays, qui a une victoire quand même importante pour Kidal, et que ces populations-là, malgré les coups d'État, malgré tout ce qu'on sait sur les armées, arrivent à afficher une fierté par rapport à leurs armées. Je pense qu'il faudrait parfois replacer les choses dans leur contexte, sans défendre naturellement les régimes militaires, mais que les analystes occidentaux doivent faire attention sur l'appréciation que les populations locales portent sur le travail que mènent leurs armées au niveau sécuritaire, malgré toutes les défaillances. Mais ce serait injuste de dire que les armées africaines sont faibles parce qu'elles n'arrivent pas à vaincre le terrorisme. Eh bien, on pourra dire que l'armée américaine est faible parce qu'elle n'a jamais vaincu les talibans et l'armée française n'a jamais vaincu les djihadistes au Sahel.
Les capacités de certaines armées africaines, notamment au Sahel ou en RDC, ont beaucoup été questionnées ces derniers temps. Pour ce qui est de la bande sahélienne, l'hydre djihadiste a déstabilisé des États comme le Mali, le Burkina Faso ou encore le Niger. Hassan Kone, pourquoi les armées de ces pays ne parviennent-elles pas à résoudre le problème ? Est-ce lié à un rapport de force ?
Non, ce n'est pas lié à un rapport de force. Comme disait le Bakary Samb, les armées classiques, ce sont des armées classiques qui n'ont pas été préparées totalement à un conflit asymétrique. Et nous voyons comme l'armée française plus les forces internationales qui étaient là ont fait 10 ans dans ces territoires et n'ont pas réussi à vaincre aussi les deux. Et pendant toute cette période, il n'y a pas eu une possibilité d'une montée en puissance de ces armées. Et il n'y a pas eu un appui de la communauté internationale dans ce sens-là. Et les pays, sur leurs propres moyens, par manque peut-être de volonté politique, n'ont pas réussi aussi à faire une montée en puissance de l'armée. Bah, c'est depuis, on peut dire que c'est quelque chose qui est à contrario. C'est depuis l'arrivée des autorités militaires récentes qu'on sent que ces armées-là sont en train plus ou moins de s'équiper, en train de se doter, essayer de monter en puissance. Donc, ce que les autres n'ont pas pu faire, ce que l'armée française plus la communauté internationale n'a pas pu faire en 10 ans, ben, eux, ils n'ont pas encore réussi à le faire peut-être pendant 2 ou 3 ans. Mais il y a quand même la perception aussi, ce qu'on trouve sur le terrain, c'est qu'ils sont en train de mener un effort. Ce n'est pas facile, mais ils essaient quand même de mener cet effort. Ça donne quelques résultats, malgré les problèmes de bavure qui sont notés ça et là, mais ça donne quand même un résultat sur le terrain. Je pense qu'on ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir réussi en 2 ou 3 ans, ce qu'on n'a pas réussi avant eux en 10 ans.
Pourtant, certains de ces pays ont fait appel à des partenaires extérieurs, un exemple avec le Mali ou la République centrafricaine, qui ont fait appel aux supplétifs russes pour lutter contre les groupes terroristes ou rebelles. Est-ce à dire que leurs forces armées n'ont pas la capacité d'agir seules face aux menaces, Barkaba ?
Cela dépend des pays. Effectivement, vous venez d'évoquer l'exemple de la Centrafrique. Et tout à l'heure, je parlais des cycles de mutinerie qui avaient déstabilisé profondément ce pays. On voit que cela a affecté la qualité de l'armée centrafricaine et cela a préparé le terrain un peu à la déstabilisation qu'on a vue avec l'arrivée de la SELECA. Et on a eu au résultat des courses une armée centrafricaine complètement en déliquescence qui a été incapable de défendre le territoire et qui est en reconstruction. Et là où c'est intéressant, si on se projette sur la Centrafrique, c'est de voir aujourd'hui que c'est un pays comme le Rwanda, un pays africain qui a une armée bien formée, bien disciplinée, avec une structure de commandement homogène, qui presque tient à bout de bras une partie du pays et assure peut-être même une partie de la sécurité des institutions de ce pays, est en train de devenir une force très très importante et de mener peut-être même sa propre politique en Centrafrique en compagnie des compagnies privées ou militarisées russes qu'on se retrouve là-bas. Donc qu'on retrouve en Centrafrique. C'est un rare exemple où on peut voir un pays africain qui a une armée bien formée capable de se projeter hors de ses frontières et de s'y maintenir. La capacité de projection des armées africaines est une donnée très rare. En dehors peut-être du Rwanda, un peu du Nigeria de la bonne époque de l'ECOMOC dans les années 90 et peut-être du Sénégal, rares sont les armées, en tout cas subsahariennes, capables de se projeter à l'extérieur et de maintenir la cohésion des troupes. Ce qui prouve que s'il ne faut pas désespérer et jeter le bébé avec l'eau du bain, même si ce sont des exemples rares, on peut dire que si une armée est républicaine, si elle est bien commandée, si les troupes sont disciplinées, on est capable d'en faire quelque chose. Maintenant, on peut avoir des appréciations différentes par rapport aux missions, mais cela veut dire que l'expertise est là.
D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur les armées africaines qui fonctionnent et qui bénéficient d'une bonne réputation à l'international. Autre illustration, cette fois dans l'est de la RDC, où depuis octobre 2023, l'armée congolaise est confrontée aux rebelles du M23 et ne parvient pas à contenir ou faire reculer ce groupe armé. Bakary Samb, comment expliquez-vous qu'une armée en supériorité numérique soit assise en échec face à ce mouvement rebelle ?
Oui, certains analystes avancent quand même un manque de professionnalisme découlant de plusieurs facteurs. Peut-être le niveau faible d'instruction et d'entraînement et un sous-équipement, une mauvaise gestion des ressources humaines, mais aussi l'étendue du territoire de la RDC. Certains en arrivent à évoquer la mauvaise qualité d'infrastructure routière qui entrave complètement la mobilité des unités. Mais je crois que ce n'est pas seulement... comme le disent certains, un manque de motivation des subalternes. Il y a aussi les clivages ethniques au sein de l'armée et surtout l'enjeu des ressources naturelles. Vous savez que la RDC n'est pas forcément maître de son destin faisant face à des facteurs exogènes qui aujourd'hui, en plus de l'enjeu des ressources naturelles dans lesquelles les groupes armés et même les FARDC sont tous impliqués.
Vous dites qu'il ne faut pas forcément jeter la pierre aux militaires congolais. Cependant, ces militaires congolais se sont alliés aux miliciens Wazalendo dans ce combat face au M23. Ne s'agit-il pas là d'une forme de sous-traitance qui illustre, qui souligne la faiblesse des FARDC ?
On peut parler de sous-traitance. En ce moment-là, parlons aussi de sous-traitance pour certaines armées qui font appel à des unités spéciales. On l'a trouvé partout. Je ne veux pas vous comparer. L'armée française fait appel à la Légion étrangère qui aussi fait partie de corps qui viennent compléter des renforts. Je ne peux pas juger que c'est bon ou mauvais, mais on a vu l'exemple, effectivement, dans le Sahel où des armées ont fait appel à des supplétifs. Certains parlent de Wagner et d'autres même de groupes turcs, mais je crois que le principal problème, c'est le sous-équipement, l'étendue du territoire, mais aussi une armée, en même temps que l'État fait face à des facteurs exogènes, notamment le rôle du Rwanda dans ce conflit.
Et Hassan Kone, quelles sont les armées en Afrique capables de défendre seules leur pays, leur territoire national face aux menaces comme le terrorisme, par exemple ?
Il n'y a pas une armée seule capable de lutter contre le terrorisme, parce que l'armée américaine n'a pas pu, l'armée française ne pourra pas, parce qu'en fait, souvent, le terrorisme ne tient pas compte des frontières et c'est une menace, d'abord une menace asymétrique et c'est une menace qui, en général, elle est transfrontalière. Les groupes terroristes agissent beaucoup, en général, au niveau des frontières. Cependant, en Afrique, comme disait Barka et disait aussi Bakary, on ne peut pas comparer toutes les armées africaines. Il y a des armées qui ont quand même des capacités très importantes. Vous avez par exemple l'armée égyptienne, qui est une très grande armée, qui a beaucoup de capacités. Vous avez l'armée algérienne, même si elle a mené pendant 10 ans une guerre civile sans relâche, elle est quand même arrivée, peut-être sur la base d'une approche plus globale qui a été menée en Algérie, arrivée L'armée sud-africaine aussi, qui est classée comme troisième armée africaine, est une armée aussi qui a assez de potentiel. Le Nigeria, malgré le fait que l'armée souffre encore un peu des problèmes qu'elle a avec les groupes terroristes dans l'extrême nord, continue aussi, et aussi une armée qui est assez puissante. L'Éthiopie aussi est une armée puissante. Toutes ces armées, en plus, viendront maintenant des pays comme le Rwanda, qui a une armée très structurée, qui a une armée bien entraînée, qui aussi, c'est des armées qui peuvent faire face à des problèmes sur le terrain. Bien, vous avez une armée qui n'est peut-être pas très puissante, mais aussi l'armée mauritanienne qui est arrivée en certains moments à monter en puissance et qui aujourd'hui a réussi à faire aussi bien des résultats sur le terrain. C'est vrai qu'elle a aussi, comme l'Algérie, bénéficié d'une approche globale qui lui a permis un peu d'endiguer ce problème, mais depuis 2011, elle n'a plus d'attaque sur son territoire. L'armée algérienne, depuis 2013, n'a plus aussi d'attaque, mais ça, il y a des armées. Et le Rwanda a fait d'excellents résultats au Mozambique, et il est en train d'en faire en Centrafrique. Donc c'est des armées africaines, il y a certaines armées africaines qui, malgré le déficit qu'elles ont de très bonnes capacités. L'armée marocaine est une excellente armée aussi. Donc vous avez un certain nombre d'armées africaines qui sont pas mal.
Barkaba, on vient de l'entendre, Hassan Kone vient de nous dire qu'il était difficile hein, pour un État de lutter, par exemple, contre le terrorisme en raison des frontières. Selon vous, les armées africaines sont-elles adaptées à l'évolution des menaces et des conflits sur le continent ?
Pour la plupart d'entre elles, elles n'ont pas pu prévenir ces menaces. On l'a vu à l'œuvre. D'abord, il y a eu pour la plupart de ces États-là une incompréhension et un manque d'anticipation de la crise djihadiste et d'autres menaces hybrides qui ont précipité un peu ces pays dans une situation très difficile. Si on observe très bien dans le Sahel, les rares pays qui avaient plus ou moins une bonne connaissance de ces fameux groupes djihadistes, c'était un peu le Burkina Faso, paradoxalement, sous Blaise Compaoré, où on avait, je dirais, des techniciens du Sahel autour de Blaise Compaoré, comme le général Diendéré ou le général Bassolé, qui avaient servi un peu d'intermédiaire au début pour la libération d'otages. Ce sont des gens qui avaient une fine connaissance des dynamiques sahéliennes. On retrouvait un peu la même expertise chez l'ancien président Ould Abdelaziz de la Mauritanie, lui et son successeur, le général Razouani, qui a été chef d'état-major, etc. Ils ont très bien pu connaître ce problème, anticiper en profondeur. Et l'autre dirigeant qui commençait à avoir cette expertise, c'était le président Bazoum, qui a été malheureusement renversé par un coup d'État. Donc, même au niveau du leadership local, on se rend compte que la plupart des dirigeants sahéliens avaient une compréhension très vague et sinon manquaient de réseau, de renseignements, de connaissances, disons même anthropologiques, qui auraient pu leur permettre de faire face, d'anticiper la menace et de préparer leurs armées par rapport à ça. C'est vrai que c'est toujours le serpent qui se mord la queue, parce que la plupart des États sahéliens, c'est des États en fait très très fragiles, qui avaient des équilibres extrêmement précaire, et il a suffi qu'il y ait quelques menaces pour que tout l'édifice s'écroule. Cela témoigne simplement de la vulnérabilité de ces États. Les armées de ces États, en général, c'était des armées souvent, parfois clochardisées dans certains pays. On connaît la méfiance de certains dirigeants qui ne voulaient pas en réalité avoir d'armées réellement structurées par peur de coup d'État, qui se réfugiaient souvent derrière quelques unités plus ou moins entraînées, mais dont la mission n'était pas d'assurer l'intégrité du territoire, mais la mission tacite était d'abord de servir de garde prétorienne à ces régimes-là. Et on a vu au final que généralement les coups d'État sont partis de ces unités plus ou moins bien entraînées, malheureusement.
On va faire une courte pause dans ce débat africain consacré à l'état des lieux des armées sur le continent africain. Restez avec nous juste après le journal. On continue de parler notamment de leurs faiblesses, mais également de leurs points forts. Nous parlerons avec des modèles d'armées qui fonctionnent en Afrique, car oui, il y en a.
Le débat africain. Le débat africain, Namori Dosso.
Merci d'être avec nous dans la seconde partie du débat africain sur RFI, une émission consacrée cette semaine à l'état des forces armées africaines. Sont-elles capables d'assurer seules la défense de leur territoire? Quels sont leurs points forts et leurs faiblesses? Enfin, comment bâtir des armées adaptées aux nouvelles menaces sécuritaires? Trois invités sont avec nous pour apporter des réponses à ces questions. Le colonel Hassan Kone, ancien colonel de la gendarmerie nationale mauritanienne et chercheur senior au sein de l'Institut d'études et de sécurité. Nous sommes également avec le docteur Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, directeur régional du Timbuktu Institute. Enfin, Barkaba, journaliste et analyste politique sénégalais, nous accompagne pour ce débat. Tout à l'heure, dans la première partie du débat, nous faisions la revue des troupes sur le continent. Nous tentions également de savoir si les forces armées africaines, dans leur grande diversité et différence de culture, étaient capables d'assurer seules leur mission première, la défense et l'intégrité du territoire national et de leurs habitants. Coup d'état militaire, mutinerie, corruption, violation des droits humains, les maux qui traversent nos sociétés africaines n'épargnent pas les grandes muettes sur le continent. D'où viennent ce que d'aucuns qualifient de problèmes structurel au sein de nos armées? Tentons d'en savoir plus grâce à nos invités. Hassan Kone, selon vous, quelles sont les raisons des difficultés rencontrées par certaines forces armées sur le continent? Sont-elles réellement structurelles?
Oui, elles ont été montées sur un modèle stéréotypé qu'elles ont toutes adapté, prise après de la colonisation. Le manque de formation, le manque d'entraînement, et comme disait tout à l'heure Barka, à un certain moment, les armées africaines ont souffert de la volonté politique ou des régimes politiques qui étaient en place, qui tenaient à les affaiblir pour éviter les coups d'État. Et donc, les armées étaient...
Alors, quand vous dites qu'elles tenaient à nos affaires, de quoi parlez-vous exactement? C'était une volonté politique? C'est-à-dire que les acteurs politiques avaient peur de leur propre armée, c'est ça?
Effectivement, les acteurs politiques avaient peur des forces armées pour éviter les coups d'État. Ils pensaient que des armées fortes sont toujours des armées africaines, parce que c'était la série de coups d'État qui avait précédé les années 70. Et à partir donc de la démocratisation, les chefs d'État qui sont mis en place ont tous affaibli l'armée. C'était l'exemple de l'armée malienne, par exemple, qui a subi cela. L'armée mauritanienne avait subi cela. Beaucoup d'autres armées ont subi ce problème d'affaiblissement des équipements, dans le cadre de l'équipement, dans le cadre d'entraînement, et surtout dans une détérioration des conditions de vie du militaire. Les armées étaient un peu à l'abandon. On pensait qu'elles n'étaient plus la colonne vertébrale de ce problème. Et quand la crise sécuritaire a éclaté en 2012 au Mali, toutes ces armées étaient dans une situation déliquescente. Toutes ces armées étaient dans une très mauvaise, dans une mauvaise situation. L'armée congolaise continue à souffrir un peu du même problème parce que c'est une armée où il y a eu, qui a été formée après un certain nombre de conflits, où il y a eu un brassage, il y a eu un mixage. Et donc, structurellement, c'est une armée qui manque un peu de cohésion et qui manque un peu de formation classique. C'est un peu de ça que les armées africaines ont beaucoup souffert. Ensuite, il y a eu aussi, malheureusement, cette politisation des armées. Et les armées ont été beaucoup utilisées pour réprimer, soit pour...
Alors justement, cette politisation des armées en Afrique, est-ce qu'elle n'a pas été contre-productive dans la mesure où certaines armées finissent par sortir des casernes et prendre le pouvoir par la force?
Mais elle n'a pas été en fait contre-productive, c'est même la résultante. C'est le fait que les militaires soient impliqués dans la politique, que les militaires soient engagés dans la politique ou soient associés à la politique, qu'ils prennent goût à la politique et qui, en ce moment-là, se prévalent plus ou moins d'un pouvoir de régulation.
Donc si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est de la faute des dirigeants africains qui ont donné aux militaires un rôle qu'ils n'avaient pas forcément.
Les dirigeants africains qui ont associé l'armée à la gestion politique. C'est les dirigeants qui les ont associés à la gestion politique de manière à fortifier le régime, soit pour réprimer les oppositions ou soit pour en faire éventuellement des vecteurs de vote et éventuellement sur lesquels asseoir leur pouvoir. Et ça s'est retourné contre eux en certains moments où ces gens-là ont cru avoir la possibilité de pouvoir réguler. Et comme dans nos pays, il n'y a pas un système de régulation qui fait que quand un pouvoir, soit il est décrié par la rue ou éventuellement il y a des problèmes de mauvaise gouvernance, il faut attendre la fin du mandat pour agir, l'armée se présente comme étant la seule structure organisée capable donc d'intervenir, et c'est pourquoi les militaires ont commencé à s'impliquer dans...
Bakary Samb, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal et directeur régional du Timbuktu Institute. Ce que nous dit Hassan Kone au sujet de cette surpolitisation du militaire en Afrique, c'est quelque chose qui ressort dans vos enquêtes au sein de votre institut?
Oui, il y a une surpolitisation des militaires, mais puis sur une certaine forme de théorie aujourd'hui qui ferait penser à des jeunes que les militaires et serait mieux que les civils et que finalement la démocratie n'en valait pas la peine, je pense qu'il faut relativiser cela. Dans certains pays, l'armée a su rester à sa place, comme au Sénégal, avec par exemple le recrutement qui est effectué sur une base d'équité et de justice, les contrôles et les instructions, mais aussi la culture de l'excellence sur les échelons du commandement. Et je crois qu'aujourd'hui, les militaires ont un rôle très important à jouer au regard des menaces sécuritaires, mais aussi je crois qu'il faudrait savoir comment faire pour que l'armée reste à sa place.
Alors justement, c'est une question que je vais poser à Barkaba. Barkaba, comment faire en sorte que les militaires africains restent dans leur caserne lorsque la situation politique devient un peu difficile ?
Ce serait très bien d'avoir la recette miracle qui empêcherait définitivement les coups d'État qui déstabilisent l'Afrique. Cela dit plus sérieusement, je pense que une des premières solutions serait d'abord qu'on ne leur serve aucun prétexte qui justifierait leur intrusion sur la scène politique. Parce que généralement, les militaires se sont déjà à l'affût, et surtout la jeune génération de militaires que l'on a n'ont pas besoin d'être surpolitisés. En fait, ce sont des sortes de nouveaux condottiers qui, comme cela a existé en Europe au 19e, 18e siècle, des gens qui se transforment presque en seigneurs de la guerre en attendant le bon moment pour surgir dans le champ politique et s'emparer des leviers de pouvoir qui sont aussi des leviers d'ascension très rapide. Ce n'est pas par hasard qu'on voit de jeunes officiers pressés avec des grades subalternes qui bouleversent totalement la chaîne de commandement militaire pour s'emparer des leviers du pouvoir. Parce que aussi la réalité est que s'emparer du pouvoir est un moyen d'ascension sociale très très rapide et même d'enrichissement, compte tenu des enjeux énormes qu'il y a dans les contrats d'armement, etc. On voit tout de suite que souvent, même physiquement, les jeunes qui s'emparent du pouvoir prennent de l'embonpoint sur tous les plans.
Donc si je comprends bien ce que vous nous dites que les militaires qui ont récemment pris le pouvoir au Sahel, que ce soit au Burkina, au Niger ou encore au Mali, n'ont pas réellement de vision pour leur pays, ils sont là que pour leurs propres intérêts.
Je ne le dirais pas comme ça. Même si au départ la motivation peut être patriotique, c'est certain, peut-être compte tenu de mutineries ou de situations difficiles sur le front qui les poussent à vouloir changer l'ordre des choses, ce que l'on constate, c'est qu'une fois au pouvoir, ils sont rattrapés par les réalités politiques parce que le pouvoir leur permet jusque-là d'accéder à des leviers qui étaient inatteignables pour eux quand ils étaient jeunes capitaines ou colonels à la périphérie. Et on voit qu'une fois qu'ils s'emparent du pouvoir, ils ont du mal à lâcher ce qui apparaît comme un gros morceau. Et après, il y a des mesures cosmétiques qui sont prises au nom du patriotisme, au nom de la volonté du sursaut national. Mais ce que l'on voit, ce sont des gens qui tentent de s'incruster, de rester. Et même au cas où ils acceptent de quitter le pouvoir, ce n'est pas sans vouloir imposer leur successeur. Donc, les militaires ne sont que les reflets d'une époque. Il serait illusoire de penser que parce qu'ils portent l'uniforme, que ces gens-là ne sont pas capables d'avoir des ambitions politiques. Je pense qu'ils ne sont que le reflet de leur époque et que certains d'entre eux ne valent pas forcément mieux que les dirigeants politiques qu'ils ont renversés.
Hassan Kone, faut-il réformer en profondeur les institutions militaires dans nos pays africains ?
Je dirais oui, parce qu'en fait, c'est une nécessité. Toutes les armées africaines ont besoin, à un certain moment, de leur vie, de se reformer. D'autant qu'aujourd'hui, quand on se rend compte des résultats ou des problèmes ou des situations que les armées ont sur le terrain, ils ont besoin d'être reformés. On a besoin qu'on inculque au personnel une certaine dose élevée de professionnalisme et qu'on lui inculque aussi des valeurs républicaines, ce qui lui impliquera que les forces de défense sécurité comprennent qu'elles doivent être apolitiques, qu'elles doivent être garantes du respect des institutions et qu'elles doivent être soumises au gouvernement. Bon, il faut les réorganiser.
Mais lorsque le pays va mal et qu'une partie du territoire est totalement perdue et que des groupes terroristes, djihadistes exercent des massacres sur les populations civiles, les armées ne doivent-elles pas agir ?
Oui, quelle que soit la situation, les armées sont tenues et obligées d'agir quand il y a un péril sur le terrain. Ça n'empêche pas que parallèlement à ça, des mesures de réforme peuvent être entreprises. Parce que ce n'est pas toute l'armée qui est sur le terrain. On envoie des unités, il y a d'autres unités qui reviennent pendant des moments de pause. Pendant ces périodes-là, on peut former, on peut entraîner, on peut réorganiser, on peut restructurer. Mais c'est une nécessité à ce que cette formation de respect des droits de l'homme, à ce que toutes ces formations soient de manière continue, malgré le fait qu'on soit sur le terrain. C'est vrai qu'aujourd'hui, les pays sont confrontés à des situations qui font que les armées ont d'abord comme premier défi ou comme première priorité de combattre ce qu'il y a sur le terrain. Mais cette réforme et cette restructuration, cette réorganisation, cet enseignement sur le respect des institutions doivent être de manière continue. Et il faut qu'on inculque dans le principe des armées le contrôle civil dans le cadre de la gouvernance de la sécurité. Il faut que tout ça revienne parce que, comme disait Talal Barkaba, malheureusement, dans les armées aussi, il y a ce principe de détournement. L'achat de désarmement, c'est des dépenses énormes, c'est des budgets énormes. Il y a souvent dans ça des sous-tables qui se passent et les gens prennent goût à cela. Donc tout ça exige que dans ces armées-là qu'il y ait un perpétuel processus ou bien de perpétuelle période de réforme du secteur de la sécurité qui amène et qu'on amène aussi les armées à comprendre que la sécurité aujourd'hui c'est une sécurité pour tous et par tous. Ce n'est pas une affaire seule des militaires. Et ça, jusqu'à présent, beaucoup d'armées n'arrivent pas à l'intérioriser. Beaucoup d'armées aujourd'hui n'acceptent pas de collaborer avec la société civile. Beaucoup d'armées aujourd'hui ne savent pas qu'en fait, elles ne peuvent pas mener la guerre sans les populations qui les aident en matière d'information. Et ce qui fait que si on ne comprend pas ça, on reste dans le cadre, malheureusement, de représailles contre les populations, d'actes parfois contre les populations, alors que l'armée a besoin des populations. Les populations sont un acteur de sécurité et il faut que dans le cadre des réformes, on arrive à inculquer cela au sein des...
Le débat africain, Namouri Dosso.
On vient d'évoquer le cadre des réformes, venons-en aux hommes et aux femmes qui composent les armées africaines. Hassan Kone, comment définiriez-vous le profil type des personnes qui s'engagent dans les armées en Afrique, si tant est qu'il y ait vraiment un profil type?
Je ne dirais pas qu'il y a un profil type. Aujourd'hui, il y a eu un certain moment, c'était beaucoup, les armées étaient un peu le creuset de gens qui ne réussissaient pas dans les écoles, surtout au niveau de la base. C'était beaucoup de gens qui ne réussissaient pas dans les écoles, qui se trouvaient dans la troupe en quelque sorte. Bon, il y a eu un moment donné c'était certaines personnes qui par option personnelle s'engagent dans les armées, mais aussi il y a des armées qui sont excellentes, comme l'armée sénégalaise dont parlait Talal Bakary Samb, comme l'armée égyptienne, ça c'est des armées dans lesquelles il y a vraiment d'excellents prototypes d'individus qui s'engagent. Mais il faut impérativement, comme disait Bakary, que les armées soient d'abord qu'elles soient inclusives, qu'elles soient représentatives des populations, qu'elles soient représentatives des composantes, et qu'on essaye de recruter les meilleurs candidats qu'on a, sans se baser sur soit l'intervention...
Alors justement, parlant du recrutement, Barkaba, faut-il faire un effort dans la sélection des hommes et des femmes qui rejoignent les armées africaines et ne plus ouvrir les portes à tout le monde?
Absolument. Si une armée comme l'armée du Sénégal, à juste titre, est donnée en exemple, c'est que depuis les indépendances, les dirigeants successifs ont compris que l'armée doit être le reflet de la nation, de la diversité ethnique de nos pays. Et ils ont beaucoup insisté sur la qualité du recrutement, tant au niveau de la troupe qu'au niveau des officiers qui, pour la plupart, ont fait les plus grandes écoles. Mais c'est un effort permanent de maintien de cette cohésion et de cette politique pour jouer sur les grands équilibres et faire le maximum possible pour laisser l'armée en dehors des joutes politiques. Ce qui ne veut pas dire que tout est parfait au sein de l'armée sénégalaise, mais plus ou moins, depuis l'indépendance, les différents dirigeants ont compris qu'il fallait tout faire pour la laisser en dehors du champ politique. Il y a eu toute cette... attention portée au plus haut niveau à certains officiers pour les mettre dans de très bonnes conditions de travail et de vie, même si parfois ça a été très difficile dans une zone comme la Casamance, où l'armée a dû mener des combats très durs et il y a eu beaucoup de pertes. Toujours, les différents régimes ont veillé à ce qu'il n'y ait pas de mutinerie ou qu'il n'y ait pas de soubresaut. Et souvent, certaines choses ont été étouffées dans l'œuf de manière assez préventive.
Bakary Samb, est-ce que vous partagez le point de vue de Barkaba au sujet du recrutement et sur la nécessité de faire un effort dans ce recrutement?
Absolument, il faut faire un effort dans ce recrutement, dépasser les clivages ethniques, revenir à des critères beaucoup plus objectifs sur les avancements, le niveau d'instruction, etc. Et si on ne le fait pas, on aura des armées qui seront certes le reflet de la population, mais aussi qui va importer les conflictualités qui existent dans la société au sein de l'armée, et cela amène des dysfonctionnements qu'on connaît et qui déstructurent, en tout cas déstabilisent les états de la région.
Ce qui nous amène à la question du professionnalisme des troupes africaines, c'est souvent un des reproches qui revient lorsque l'on parle des militaires en Afrique. Sur ce point, Hassan Kone, y a-t-il un manque de professionnalisme au sein de certaines troupes en Afrique?
Oui, dans la majorité des armées africaines d'ailleurs, il y a un manque de professionnalisme. Il y a un
Mais il est dû
manque
à quoi ce
d'attachement.
manque de professionnalisme?
Il est dû d'abord à la qualité de recrutement, ensuite il est dû à la formation. Parce que si vous recrutez quelqu'un qui n'est pas en bon niveau et qui n'a pas été recruté parce qu'il est le meilleur candidat, ça c'est un déjà. Ensuite, et vous lui faites une formation plus adaptée. En plus, vous ne lui offrez pas l'encadrement nécessaire qui permet à ce qu'il fasse, dans le cadre d'une formation continue, à ce qu'il continue à s'améliorer sur ce plan, bah, vous n'allez pas avoir un militaire professionnel. Et ensuite, les valeurs, parce que si on lui inculque certaines valeurs et qu'on ne lui apprend pas à respecter ces valeurs, on ne lui apprend pas à respecter les limites de son action, et on continue par rapport à tous les événements qui se passent, de manière empirique, à lui introduire la culture du respect, d'abord des droits humains, du respect des consignes qu'il reçoit, vous n'allez pas avoir un militaire professionnel. Et c'est ça, problématique dans une grande majorité des armées africaines. Bon, si je dis une majorité, c'est par rapport quand je prends le nombre. Mais il y a des armées africaines où certains qui sont professionnels et qui arrivent à vraiment avoir des troupes qui sont respectueuses de tous les principes.
Barkaba, est-ce que ce professionnalisme au sein des troupes africaines ne passerait-il pas par une plus grande coopération régionale?
Oui, il est nécessaire d'élargir la coopération régionale et on a vu que face à la pression djihadiste ou à d'autres menaces asymétriques, beaucoup d'États ont eu du mal tout seuls à s'en sortir. Mais il faut repenser, à mon avis, cette coopération. D'abord au sein de la CEDEAO, qui a essayé de mettre en place des mécanismes d'alerte précoce, mais qui jusque-là n'ont pas trop bien marché pour certains cas. La CEDEAO a essayé de mettre en place une force en attente, mais cette force en attente ne dispose pas d'assez de troupes entraînées et régulièrement entretenues. On l'a vu dans le cas du Niger. Quand la CEDEAO a voulu intervenir pour établir l'ordre constitutionnel, il y a eu pas mal de problèmes pour constituer les troupes. Donc le cadre institutionnel est là pour développer des mécanismes de coopération sous-régionale. Mais on a même vu que par ailleurs, quand dans le cadre bilatéral ou multilatéral, des forces mieux organisées comme la force Barkhane s'est déployée dans le Sahel, on a noté pas mal d'insuffisances. Dans le cadre du G5 Sahel aussi, qui était un autre cadre de regroupement de forces, on a vu qu'il y a toujours eu des problèmes de doctrine, des problèmes de budget, d'encadrement, des troupes. Je veux dire, beaucoup de solutions ont essayé d'être apportées jusque-là, mais toujours est-il que parfois, par manque de moyens, pour des questions politiques, on n'y arrive pas encore.
Alors, dernier point que je voulais aborder avec vous, hein, celui des armées qui bénéficient d'une très bonne renommée sur le continent africain. On peut citer l'armée sénégalaise ou encore l'armée rwandaise qui ont été sollicitées en République centrafricaine ou encore au Mozambique. Bakary Samb, selon vous, sur quoi repose la renommée de ces armées ?
Ces armées-là ont une renommée qui repose d'abord, je pense, sur la qualité du commandement. Cette culture de l'excellence, par exemple, et du patriotisme, avec la recherche de plus de motivation pour les hommes, mais aussi le commandement par l'exemple. Le commandement par l'exemple qui, à mon avis, est un ingrédient essentiel pour rendre ces armées meilleures. Mais je crois qu'en dépit de tout, il faut, je pense que de la même manière que la population doit être éduquée à la citoyenneté, l'armée aussi à la question du patriotisme et à la défense des intérêts vitaux de ces pays-là, mais il ne faut pas oublier la question de l'instruction, de l'entraînement, de la formation, le contrôle qui est important avec les inspections et la gestion des deniers et des matériels. Ce sont des éléments importants pour que ces armées puissent avoir une renommée leur permettant d'être crédibles au niveau de leur population et de s'acquitter correctement de leur travail, comme on le voit dans certaines armées de la région que vous avez citées tout à l'heure.
Et c'est avec les mots et le point de vue de Bakary Samb que nous allons clore ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'y avoir apporté vos regards et vos analyses sur la situation des forces armées sur le continent africain. Ce débat africain, vous pouvez le retrouver et le réécouter sur l'application mobile RFI Pure Radio. Merci à l'équipe grâce à laquelle nous vous proposons chaque semaine une émission consacrée aux grands sujets qui traversent le continent. Delphine Michaud à la coordination et Taguimfa Traoré à la réalisation. De Dakar à Kinshasa en passant par Pretoria, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains sur un monde en perpétuel mouvement.